Ma vie en bio, le rendez-vous 100% bio de Fréquence Terre. Frédéric Benoît.
La vie en bio vous présente le guide Terre vivante des maladies et ravageurs du potager bio, deuxième partie. Nous sommes toujours avec Jean-Paul Torres, bonjour.
Bonjour.
Alors je rappelle qu'il s'agit d'un ouvrage de 300 pages, coécrit par de nombreux auteurs de Terre vivante, un guide en trois parties, prévenir, identifier et soigner. La semaine dernière, nous avons vu cette première partie qui consiste à observer, à préparer son sol, à laisser entrer la biodiversité. Cette semaine, nous allons voir comment identifier un problème. Le but, bien entendu, c'est d'apprendre à le corriger. Jean-Paul Torres, quelles sont les différentes sources de problèmes que l'on peut rencontrer au potager ? J'ai vu, il y a le climat, les insectes, mais il y a aussi parfois une mauvaise conduite du potager par le jardinier lui-même.
Oui, effectivement, il y a des facteurs climatiques, hein, une plante qui gèle, une plante qui sèche, qui a pris un petit coup de chaud. Bon, ça existe, là, ça détruit des plantes. Bon, autrement, il y a le sol qui parfois est une cause de problème. Il y a des sols, tout le monde a vu ça, des plantes qui jaunissent. Hein. Vous avez peut-être remarqué des rosiers un petit peu jaunes, une glycine un petit peu jaune. Bon,
donc ça, ce serait dû à...
ça, c'est lié au sol. Il y a trop de calcaire dans le sol, hein, tout simplement.
Ah.
Donc au potager, ça va avoir une influence, par exemple, sur les fraisiers qui vont jaunir. Voilà. Après, il y a des virus, des micro-organismes, hein, des microbes, des bactéries, des choses comme ça. C'est un petit peu plus délicat à reconnaître, hein, ça, parce que il y a plein de symptômes différents, des colorations bizarres, des déformations, des cloques. Enfin, c'est pas très ragoûtant.
Quand on voit cette partie-là, bon, bah, on rentre dans des trucs pas très beaux. Hein.
C'est un peu technique et c'est un petit peu. C'est comme le Larousse médical, si vous voulez.
Oui, alors pour nous aider, nous néophytes qui apprenons à détecter les maladies ou les problèmes dans le jardin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de photos. Très précise. Voilà. C'est tout l'intérêt d'avoir ce guide entre les mains, hein. C'est qu'il y a de nombreuses photos et on passe toutes les sources possibles en revue, de la plante grignotée par des lapins, aux taches brunes sur les feuilles, aux racines dévorées par les larves. Il y a des fiches qui donnent des solutions, comme par exemple engager une rotation pour les plantes. Ça concerne quel genre de maladies en général ? Les maladies qui se trouvent dans le sol, non ?
Ça concerne, oui, des germes de maladies qui survivent dans le sol pendant plusieurs années. Donc, si on attend 5 ans, on a des chances pour que les germes aient plus ou moins disparu.
Alors maintenant, on va voir des cas typiques. Quand on se retrouve avec des pucerons dans le jardin, comment on fait ?
Je vais vous répondre, mais je vais d'abord vous dire que moi, dans mon jardin, j'ai pratiquement jamais de pucerons.
Bon, bah, très bien, ça m'intéresse.
Les pucerons sont très sensibles à l'état de santé des plantes. Les pucerons, ils adorent les plantes qui sont gavées. Donc, il faut éviter de gaver les plantes, hein, tout simplement, dans le potager. Il faut pratiquer une fertilisation modérée. Hein. Faut pas doubler les doses.
Par exemple, planter des œillets, des soucis dans le jardin.
J'allais y venir, il y a des plantes qui repoussent les pucerons, hein. c'est très très connu. J'ai pu vérifier en visitant énormément de jardins que c'était tout à fait efficace contre non seulement les pucerons, mais les mouches blanches, les acariens, les œillets d'Inde émettent des substances répulsives qui sont très efficaces.
Et après, il y a la possibilité d'aller faire dans un petit coin du jardin un peu éloigné des plantes qui vont plus particulièrement attirer les insectes.
C'est effectivement un autre aspect qui, moi, m'intéresse énormément, c'est de planter des fleurs qui vont avoir comme vocation de produire du nectar et du pollen pour les auxiliaires, pour les coccinelles, pour les chrysopes, les cirphes, etc., qui ont tous besoin de pollen et de nectar. Et donc, si vous leur proposez ces aliments sous forme de fleurs dans votre potager, ben, vous allez les attirer et ils vont fonctionner à fond dans votre jardin. Et moi, c'est ce que je fais. Et je dirais que c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pratiquement pas d'insectes, nuisibles dans mon jardin. Je ne traite jamais avec un insecticide. Jamais de jamais.
Discutant avec mes collègues qui ont un bout de terrasse, un petit bout de jardin, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de planter des tomates. Ils disent « Ah, bah, les tomates, on les laisse dans un coin du jardin, ça pousse tout seul et puis ça donne des tomates. » Et arrive la saison du mûrissement et puis « Ah, bah, mes tomates, du coup, alors elles vont pas bien. » Assez régulièrement. Et j'ai voulu regarder cette partie-là du livre en me disant « Tiens, peut-être que je vais pouvoir les conseiller un jour. » C'est pas facile de détecter les maladies des tomates parce que ça se ressemble tout là. Non.
Oui, c'est vrai. Bon, on peut apprendre à reconnaître toutes les maladies. Bon, la plus fréquente, c'est quand même, comme pour la pomme de terre, le mildiou.
Alors ça
Bon,
se manifeste comment? C'est une tache brune qui arrive
tache noire, enfin tache
sous
noire
la
sur les
tomate.
feuilles et sur
Ah.
les tiges.
Ah,
Et
d'accord.
après, quand il y a des fruits, c'est aussi des taches noires sur les fruits qui pourrissent. C'est un
Disent.
facteur qui est essentiellement climatique, c'est-à-dire que les tomates qui ont un peu froid et qui sont arrosées en permanence par la pluie sont très sensibles au mildiou. Ce que je recommande, et c'est ce que je fais moi-même, c'est de planter les tomates sous un abri. Alors, si on a la chance d'avoir une petite serre, c'est bien. Sinon, c'est simplement s'arranger pour qu'il pleuve pas sur les tomates, c'est-à-dire faire un petit toit par-dessus, les mettre un petit peu à l'abri pour pas qu'elles soient mouillées, tout simplement.
Gérer soi-même l'arrosage, c'est ça?
Et arroser au pied, hein, ne pas
D'accord,
mouiller le
le
feuillage,
feuillage.
évidemment.
Alors, il y en a des maladies, hein. On va peut-être juste rappeler que c'est la deuxième partie de ce guide. Tout d'abord, on peut repérer les maladies grâce aux photos, et puis aussi par grande famille de légumes dans le potager. Si vous avez des soucis avec des carottes, par exemple, ben, vous allez à la page carottes, et si vous avez des soucis avec le chou, vous allez dans la rubrique des choux. On ne désespère pas, cette partie est vraiment faite pour vous aider à identifier les maladies. Venez jeter un coup d'œil aux possibilités et surtout aux solutions. Je le rappelle, qui sont biologiques, que vous rapporte ce guide. Parfois, une simple rotation dans une autre parcelle ou une pulvérisation de prêle, de bicarbonate peut suffire. Merci Jean-Paul Thorez. Fin de cette partie de ce guide Terre vivante des maladies et des ravageurs du jardin bio. La semaine prochaine, dans la troisième et dernière partie, nous parlerons des remèdes en guise de conclusion. Donc, à la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez toujours vous procurer ce guide. C'est sur le site de Terre vivante, terrevivante.org et direction Fréquence Terre pour avoir toutes les références utiles et réécouter ce magazine.